Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués. Poué.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour sa première émission bimensuelle du mois de juin. Et on se retrouve pour une heure pour parler de la défense des droits humains, de la promotion des droits humains, des grandes campagnes d'Amnesty par rapport à ça et de plein de sujets qui nous tiennent à cœur. Des informations, des appels à l'action, des bonnes nouvelles, des coups de gueule et tout et tout. Donc voilà, pendant une heure, on vous serait avec Clara, qui est à côté de moi.
Bonjour.
Et puis, il y a quelqu'un que vous n'avez encore jamais entendu à l'antenne, parce qu'elle est arrivée au groupe il n'y a pas très longtemps. Elle vient de Toulouse, si je ne me trompe pas. Et elle s'appelle Colombe.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Voilà. Et alors, Colombe, pour ne rien vous cacher, elle a un petit peu intimidé de parler pour la première fois à la radio, mais on lui a dit « t'inquiète pas, ça va très bien se passer ». Et puis, il y a toujours Rodan de l'autre côté du micro, à la technique.
Bonsoir.
Et puis, il y a moi. Voilà.
Lui, c'est DJ comme d'habitude.
Voilà. Donc ce soir, encore pas mal de sujets. On va vous parler de peine de mort au Burkina Faso. On va vous parler de droit à l'avortement. On va vous parler de Gay Pride et des marches des fiertés. On va vous parler d'un sujet assez dramatique. C'est l'enquête qu'a fait Amnesty International par rapport à la libération, entre guillemets, de Raqqa l'année dernière. Et des exactions et des crimes de guerre qui ont été commis malheureusement à cette occasion. Il y a un rapport qui vient de sortir. Et puis Ronan va vous parler aussi de l'armée nigérienne.
C'est un petit peu la Suède, tu en avais parlé à la dernière émission par rapport au Nigeria, que Amnesty a fait un rapport.
Tout à fait.
Et on a la Suède qui n'est pas très très...
Voilà.
J'en parlerai.
C'était le droit des femmes au Nigeria.
C'est mon coup de gueule.
Et c'est un rapport d'Amnesty, une action d'Amnesty qui ne plaît pas aux autorités nigériennes visiblement. Donc voilà, et puis des infos locales. D'ailleurs, on va commencer exceptionnellement par vous rappeler une info locale qu'on a, parce que ça nous tient particulièrement à cœur. La semaine prochaine, si vous êtes disponible, et j'espère que vous le serez, on se retrouve le mardi 19 à 19h45 au cinéma Pathé. Il y a une soirée débat autour d'un film. Le film s'appelle Human Flow. C'est un film qui est sorti au début de l'année et qui traite du problème des réfugiés, qui a été tourné dans 23 pays. Et qui montre bien que les drames humains que représentent les problèmes des réfugiés, et dans la bande-annonce, c'est bien expliqué que défendre les réfugiés, c'est tout à fait indispensable, parce que quand on est réfugié, c'est le dernier droit humain qu'on n'a pas perdu, parce qu'on a perdu tous les autres. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, il y aura donc une projection débat sur la thématique des réfugiés, donc bien sûr, on vous attend tous au cinéma, 19h45, mardi prochain le 19, et le lendemain, on fait une émission de radio spéciale, en direct de la MJC, auprès du Bel et Bas. Et donc, ce sera de 18h à 19h45. Là aussi, vous pouvez venir nous voir. Hein, c'est ouvert à tout le monde. Et il y aura des témoignages de réfugiés, parce que le 20, c'est la journée mondiale des réfugiés. Et il y aura des témoignages de réfugiés. Il y aura également la participation d'un avocat spécialiste, Maître David Boyle, et puis des militants associatifs, et puis, enfin, etc. Vous nous retrouverez donc aussi, si vous avez envie, le mercredi 20, à la MJC. Donc voilà, on vous le redira à la fin de l'émission, mais ça me paraissait important de vous en parler tout de suite. Donc, pour commencer l'émission, vous êtes au courant avec l'actualité que depuis 2 ou 3 jours, là, le drame de l'Aquarius, le droit encore une fois des migrants en Méditerranée, c'est plus de 600, je ne sais plus combien ils étaient, Ronan, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête.
Oui, je crois que c'est à peu près ça, oui.
600 et quelques migrants, hommes, femmes et enfants, enfin, etc., dont des femmes enceintes. Qui avait été récupéré par l'Aquarius au large des côtes libyennes et qui remontait vers l'Italie. Et l'Italie, avec le gouvernement actuel qui a changé et le ministre de l'Intérieur, qui a bien sûr refusé de les autoriser, à débarquer dans un port italien, en disant qu'il ne voulait absolument plus, que le gouvernement italien ne voulait plus s'occuper de ces gens-là. Et que, enfin, avec tout le vocabulaire autour, qu'il fallait mettre un terme à l'envahissement, que, etc., etc., enfin, tout ce qu'on entend à droite et à gauche, y compris chez nous, Alors moi, je voulais simplement dire que bon, apparemment, le bateau va être quand même va pouvoir rejoindre les côtes espagnoles, enfin un port espagnol, pour que les gens soient pris en charge. J'ai entendu là aux infos avant de venir qu'il allait même être escorté par deux navires italiens, de la marine italienne.
Mmh, tout à fait.
Parce que le problème, c'est que j'ai entendu ce matin à la radio que le navire avec 600 personnes était complètement... Il est passé de près de 200 personnes sur la quantité maximum de passagers qu'il pouvait transporter. Et que les gens étaient dans des conditions épouvantables avec la chaleur. Et que c'était vraiment une traversée absolument épouvantable au niveau de l'épreuve que ça représente, et qu'il fallait donc trouver une solution très rapidement.
Par contre, je sais qu'ils avaient demandé de l'aide à la France, mais par contre, j'ai pas eu.
Les autorités françaises ont beaucoup traîné avant de répondre, et M. Macron aurait dit en début d'après-midi, là aussi j'ai entendu ça sur France Info en courant de l'après-midi, que M. Macron avait trouvé très très déplorable la réaction du ministre italien.
Et il a perdu à proposer, lui.
Et, mais enfin, il a fait le mort pendant deux jours, hein, avant de donner signe de vie, notre président. Et donc, ce ministre italien donc, a dit que ces gens-là n'avaient rien à faire en Italie, que de toute façon, maintenant, ils ne les accepteraient plus, et que c'était fini. Voilà. Donc, jouer les gros bras, ce monsieur italien, monsieur ministre italien, dont j'ai oublié le nom, mais je ne peux pas m'en rappeler, ce monsieur italien qui joue les gros bras par rapport à des femmes et des enfants. Qui sont dans des conditions épouvantables, qui sont démunis, qui, encore une fois, comme on le disait au début, qui cherchent à utiliser le dernier droit qui leur reste parce qu'ils ont perdu tous les autres, c'est-à-dire le droit de chercher accueil dans un pays, parce qu'ils n'ont bien évidemment pas pu rester dans le leur, pour différentes raisons, dont on vous parle à longueur d'émission depuis qu'on est présent sur l'antenne de Principe Actif. Donc ce monsieur qui joue les gros bras par rapport à des hommes sans défense, des femmes et des enfants et des femmes enceintes, franchement, ce type-là, je ne sais pas quelle conscience il a, mais moi j'appelle ça une sombre brute. Donc voilà, c'est tout sauf du courage de dire des choses pareilles, c'est même exactement l'inverse. Donc voilà, bon, j'avais envie de le dire et on le redira encore une fois. Bon, des solutions vont être trouvées pour ces gens-là. Apparemment, on a perdu du temps, on a perdu plusieurs jours, on aura sûrement des gens qui seront dans un très mauvais état physique quand ils vont arriver, voire peut-être pire d'ici à ce qu'ils arrivent. Puis encore une fois, puis je terminerai là-dessus, un petit coup de chapeau aux gens de SOS Méditerranée et de l'Aquarius, qui ont quand même été récupérés, ces gens-là, au large des côtes libyennes, et qui sont maintenant apparemment un des derniers bateaux à faire ce genre de choses. Il n'en reste presque plus. Donc on va continuer à avoir des drames humains en Méditerranée, comme on en a dans le désert, pour les gens qui remontent et qui meurent en cours de route. Il y en a plein, mais ceux-là, on ne les voit même pas. Et on va continuer à avoir des drames humains, et monsieur le ministre italien continuera à dire, j'imagine, que c'est une très bonne chose que ces gens-là disparaissent. Voilà. Donc, on va continuer. C'est Clara qui voulait vous faire tout un speech. Alors, on ne sait pas ce qu'elle va vous dire, mais qui voulait vous faire tout un speech sur un thème qui lui tient à cœur. Et comme il y en a une très bonne nouvelle récemment par rapport à ce thème, c'est le droit à l'avortement.
Bonjour, moi je vais suivre ce qu'avait dit Mina la semaine dernière à propos du référendum en Irlande. Au départ, je vais vous parler d'un point de vue historique. Il est très important de savoir de quoi l'on parle exactement. Alors, entre 1938 et 1945, l'avortement était illégal en Irlande, et il n'y avait aucune sanction. Cependant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc à peu près vers 1946-1945, l'interruption volontaire de grossesse était passible de 14 ans de prison pour la femme et le médecin. À partir de 1983, il y a eu 67% des votes favorables au 8e amendement. Alors, bien sûr, le 8e amendement, on en entend beaucoup parler en ce moment.
Mais c'est quoi ?
Justement, c'est un amendement qui souhaite le droit égal à la vie de la mère et à l'enfant à naître. Il en fait beaucoup parler, c'était le même cas pour la Pologne il y a un peu plus d'un mois maintenant. La principale avancée en Irlande a eu lieu en 2013, puisque une seule condition, une seule et unique, a été acceptée. C'est le cas pour le danger de la vie et de la santé de la mère. C'est la seule qui a été acceptée, ce qui est justement lamentable. Désormais, je vais vous parler d'hier et aujourd'hui. Donc à partir de 2013, il y a eu des avancées jusqu'à 2016. Enfin, des avancées, c'est un grand mot. À partir de juin 2013, l'ONU a demandé à l'Irlande d'élargir leurs conditions pour avoir un accès à l'interruption volontaire de grossesse sûre et légale. Ils ont même dit que les femmes irlandaises étaient victimes d'un traitement cruel, inhumain et dégradant. À travers les élargissements de conditions, elle visait à dire qu'il fallait désormais que le fœtus, qu'une fois le fœtus atteint d'une maladie, la femme devait pouvoir avorter les sûres et légales. À partir de 2 juillet 2013, la réponse a été défavorable à cette demande d'élargissement de conditions. La législation irlandaise sur l'interruption volontaire de grossesse est l'une des plus restrictives du monde, pas seulement d'Europe, je dis bien du monde. Suite à différentes campagnes, il y a eu différentes campagnes pour mettre en place afin de légaliser l'avortement pour toute femme ne souhaitant pas être mère. À partir du 30 septembre 2016, et c'est là désormais le point de vue aujourd'hui actuel, des manifestations ont eu lieu pour légaliser l'interruption volontaire de grossesse pour toute femme n'ayant pas comme désir d'être mère. Il y a eu 30 000 manifestants, cependant, le double de pro-vie y était. Alors, exactement, les pro-vie, ce sont des personnes qui luttent pour le droit à la vie du fœtus, donc autrement dit, contre l'avortement. La loi qui souhaitait donc que toutes les femmes puissent avorter sans aucune condition a été rejetée. La principale avancée désormais a eu lieu là, justement, en mai 2018, il y a un petit peu plus d'un mois. Ce référendum visait à supprimer le 8e amendement, donc je vous ai déjà défini ce que c'était auparavant. Il y a eu 66%, et ça c'est un score absolument formidable, qui ont dit oui. À travers ce 8e amendement, c'est une atteinte aux droits fondamentaux, plus exactement au droit à la santé, au droit à la vie. Je vais bien appuyer sur le droit à la vie, puisque dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article numéro 1, et les hommes naissent libres et égaux en droit. Et j'appuierai bien sur le mot « naissent ». Mais aussi, ce référendum a eu un tournant politique et citoyen, puisque beaucoup de médecins, traumatisés par la détresse des femmes ne pouvant pas avorter, ont revendiqué ça, justement. Mais aussi à travers de nombreuses associations qui ont permis un changement de mentalité pour que ce référendum soit le résultat d'un oui franc pour le droit à l'avortement. Enfin, désormais, je vais vous parler du résultat de ce référendum, de l'espoir qui est porté pour tous les Irlandais et pas seulement pour les femmes. Désormais, ça sera aux élus de décider si les conditions du droit à l'avortement. Il y a une proposition de loi qui a été faite. Jusqu'à 12 semaines de grossesse, les femmes pourront se faire avorter. C'est exactement le même délai qu'en France. Si cette loi est acceptée, il y aura moins de tourisme abortif. Le tourisme abortif, c'est le fait de quitter son pays pour pouvoir se faire avorter à l'étranger. Les femmes irlandaises pourront ainsi disposer de leur corps de façon médicalement encadrée. On constate alors la complexité du débat et des points de vue, ce qui a eu lieu aussi en Pologne. Suite à toutes ces remises en cause, les évolutions entraînent une différence des lois sur l'IVG en Europe. Désormais, en quelques chiffres, on peut donc dire que chaque jour, 10 femmes irlandaises pratiquent le tourisme abortif. 10, c'est absolument énorme. Chaque jour, 3 femmes irlandaises importent sans soutien médical des pilules abortives. En 2012, Savita, une jeune indienne, est décédée dans un hôpital en Irlande. Le médecin n'a pas accepté de la faire avorter alors qu'elle était exactement en train de faire une fausse couche. Elle avait 31 ans et elle était à 17 semaines de grossesse alors que normalement elle y aurait pu avoir accès. Le médecin avait comme excuse principale que tant qu'il y a un rythme cardiaque fœtal, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. Elle est décédée suite à cela. Donc voilà, moi j'ai souhaité vous parler de ça. Je porte toute ma voix à ces jeunes Irlandaises qui, j'espère, pourront se faire avorter légalement d'ici peu.
Oui, c'est vraiment un sujet effectivement qui tu tiens particulièrement à cœur, Clara. Juste une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire quand tu disais que les femmes irlandaises, enfin 10 par jour, allaient avorter à l'étranger. C'est une situation qu'on retrouve hein, dans tous les pays qui interdisent plus ou moins la possibilité pour les femmes de pratiquer des avortements. Et donc effectivement que ces femmes-là sont amenées à le faire à l'étranger, enfin, dans un pays plus libéral, entre guillemets, avec une législation plus ouverte. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que là, effectivement, c'est valable pour les gens qui ont un minimum de moyens financiers et qui peuvent le faire. Ce qui veut dire que les femmes qui sont dans des situations précaires, c'est entre guillemets la double peine. C'est-à-dire que non seulement on leur refuse effectivement ce droit de disposer de leur corps, parce que le droit à l'avortement, c'est exactement ça, mais en plus, elles n'ont pas la possibilité de trouver une solution de secours telle que celle d'aller avorter à l'étranger, puisque financièrement, elles ne peuvent pas le faire. Donc effectivement, la répression, encore une fois, ne respecte pas plus les droits humains fondamentaux que les droits économiques et sociaux, comme on le dit à Amnesty, puisque là, effectivement, il y a une sélection de fait par l'argent qui se perd dans ces situations-là. C'est ce qu'on trouve aussi en Pologne. Hein. Je me rappelle, on avait parlé de le droit à l'avortement en Pologne, qui lui, par contre, Clara, est moins bien parti en ce moment. Enfin, on ne sait pas trop où ça en est. Hein. Je crois que c'est toujours pas voté pour l'instant. Tu m'interromps si je dis des bêtises, mais je crois que c'est toujours pas passé au Parlement. Enfin, il y a une menace de restreindre le droit à l'avortement en Pologne, qui est déjà un des plus restrictifs de la communauté européenne, enfin de l'Union européenne.
C'est exactement ça. En Pologne, les femmes pouvaient se faire avorter seulement pour trois conditions. Droit à la vie du fœtus. Les deux autres, je ne sais plus exactement, mais c'est cette troisième condition justement.
Je crois que si la vie de la mère aussi était menacée, voilà. Ou quelque chose comme ça, ou en cas de viol, non de,
oui,
de,
c'est
de,
ça.
Bah, de mémoire, viol, de mémoire. Je ne garantis pas l'exactitude de ces trois, mais ça va ressembler à ça, je crois.
Viol et inceste, droit à la vie du fœtus, et le dernier, bah, justement, c'est pour cas de danger de vie pour la mère. Et c'est cette troisième condition qui vise à être supprimée en Pologne. Mais on ne sait pas exactement où ça en est maintenant.
Ok. Et aussi par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui est important effectivement aussi au niveau des droits, de ce droit à l'avortement qui est un droit fondamental pour que les femmes puissent disposer de leur corps, ce qui est tout à fait vrai dans les textes juridiques qui existent, hein, puisqu'Amnesty se réfère toujours au droit international. Le droit international ne parle que de la vie d'un être humain quand il est né, forcément, puisque avant, c'est impossible de qualifier un être qui est en instance de naissance. Donc tout l'argumentaire des pro-vie, comme tu disais effectivement, qui disent on tue des êtres humains. Non, on tue pas des êtres humains, on tue un être humain qui va peut-être voir le jour, enfin un être humain. On tue, un fœtus qui est en voie de Je cherche le mot, qui est en voie de naissance un jour ou l'autre, mais en aucun cas on s'attaque à un droit d'un être humain, puisque l'être humain n'existe pas encore à ce moment-là. Donc effectivement, sur un plan purement juridique, il n'y a pas de confusion possible entre un droit à la vie et le fait d'avorter. Ça n'a strictement rien à voir.
Et par contre, la mère, c'est un être humain.
Par contre, le droit à la mère, effectivement, enfin le droit de la mère de disposer de son corps et de mener la vie qu'elle veut et de protéger sa santé, enfin, etc. Quand on conçoit, par exemple, enfin ça, moi, en tant qu'homme, là, je pourrais dire que ça m'a toujours révolté. Quand on conçoit qu'on puisse imposer à une femme qui a été victime de viol ou d'inceste d'accoucher, enfin franchement, moi, ça me paraît surréaliste. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est tout à fait inimaginable. Quoi. Je veux dire, bon. Mais bon, ça fait partie des choses qui nous révoltent en tant que militants d'Amnesty quand on les voit. Mais bon, apparemment, il y a des gens qui considèrent que si, enfin, etc., etc. C'est envisageable d'imposer ce genre de choses. Donc c'est bien dans les émissions qu'on fait et puis dans les discussions qu'on a avec le public de rappeler ces notions-là, effectivement, puisque c'est quelque chose qui est important et qui est loin d'être acquis. Y compris même chez nous, enfin on va s'arrêter là, mais y compris même chez nous par rapport au droit à l'avortement, qui a été voté en 1975, moi je me rappelle, hein, je pense que Clara n'était pas née.
Non,
mais je me rappelle des débats au Parlement qui n'étaient pas tristes non plus à l'époque. Hein,
c'était costaud.
Aussi. C'était Simone Veil, oui, effectivement. Et les débats qu'elle a eus, elle a droit aussi, elle aussi, à des volées d'injures, etc., etc., de députés bien français. Hein. Et même encore à l'heure actuelle, il y a régulièrement des remises en cause, des gens qui voudraient restreindre ce droit à l'avortement, qui en France est relativement libre. Voilà.
Bah, je pense que c'est peut-être le moment que je fasse peut-être une bonne nouvelle.
Oui,
pour passer
oui on va passer à une bonne nouvelle.
Donc la bonne nouvelle, c'est l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso. Le Parlement du Burkina Faso vient d'adopter un nouveau code pénal qui abolit la peine de mort en droit. En adoptant ce nouveau code pénal, le Burkina Faso élimine la peine de mort dans la liste des sentences possibles. Si le pays était abolitionniste dans la pratique depuis de nombreuses années, cette décision parlementaire n'en est pas moins bienvenue. Lorsque ce code entrera en vigueur, le Burkina Faso rejoindra le groupe de nations qui ont relégué ce châtiment cruel aux oubliettes de l'histoire. Donc justement, en parlant de ça, donc actuellement en Afrique subsaharienne, il y a 21 pays qui ont aboli la peine de mort. Mmh. Mais en 81, il y en avait combien ?
Ah. On n'en avait qu'un seul.
Voilà, bien joué. Et c'était quel pays ?
J'en ai aucune idée.
Ah, voilà.
Il y avait Colombe qui avait la première partie de la réponse, mais elle n'a pas la deuxième. C'était lequel, Rodon ?
C'était le Cap-Vert.
Cap-Vert ?
Ouais.
Ouais, c'est vrai que moi non plus, j'aurais pas trouvé le Cap-Vert. Ah
bah, moi non plus, parce que pour moi, le Cap-Vert, c'était pas.
J'aurais même du mal à.
Moi, j'aurais mis Afrique du Sud.
Bah ouais, parce que pour moi, le Cap-Vert, pour moi, c'était pas un pays. Je crois que ça dépendait du Portugal.
Oui,
c'est pour ça, pour moi.
Oui, c'est au large des côtes africaines, dans une île. J'avoue que là, au niveau géographie.
Si, le Cap-Vert, c'est né, mais moi, je croyais qu'elle appartenait justement au Portugal. Donc,
ouais. Non, l'Afrique du Sud, c'est plus récent, ça doit être marqué sur ton papier, là, Colombe parlait de l'Afrique du Sud. C'était quand l'abolition de la peine de mort en Afrique du Sud ? C'est pas si vieux que ça.
1997.
Oui, c'est ça. Oui, c'était après la disparition de l'apartheid. Puisqu'évidemment, pendant l'apartheid, il condamnait à mort beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui n'étaient pas des criminels, mais des opposants politiques. Donc, voilà. Donc, oui, c'est une très bonne chose et ça prouve que le combat d'Amnesty et d'autres, hein, mais aussi le combat d'Amnesty pour la généralisation de l'abolition de la peine de mort continue. Et voilà, donc on rappelle qu'effectivement, ça progresse. Pas assez vite, c'est sûr, mais ça progresse et c'est une bonne chose. On s'écoute un peu de musique ?
Yoga, bana mboka bao kende bao kimape bana mpiaka bao kende pasele kinde mokili mbanga daba lelo ya yolo bianga lelo na yelo bioko ya pesanga lo po-o
ils sont calcinés nos rêves chez moi. Je crois en la vie, je rêve encore. Je vais pas faire tous ces kilomètres pour m'arrêter contre ce grillage.
Je pars, c'est pour la dignité. Sauver les miens de pauvreté qui n'ont pas mérité. On me refuse tous les ports et tous les aéroports. On parle de paix, on m'a donné la mort.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi. En toi et en moi.
Va, n'oublie surtout pas que le destin de ta famille repose sur toi. Je sais que tu nous feras sortir des entrailles de la misère. Le cœur meurtri, je te laisse partir, mais en toi j'ai foi. Ma seule prière, c'est que tu ne finisses pas comme ton père, père, père.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule. En toi et moi, en toi et en moi.
Pourquoi perdre la vie pour les râles ici? Les richesses qui tu vises, ils les prennent ici. Trop de haine entre nous, trop de jalousie. Vendre ton frère en Libye, c'est quoi ton alibi?
Cet esclavage, c'est de la politique, politique, politique. La migration est un sens unique, unique. Loin de tout, loin de tous tes droits.
Jamais n'oublie qu'au pays, tu as aussi un toit.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi.
Konye, konye, jonye. Ambeye Adam and Deneye. Ambeye Allah Danfene.
Bien de retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, comme c'est, en vous le disant en début d'émission, la journée mondiale des réfugiés le 20 juin, c'était une petite chanson effectivement par rapport à ce thème, mais la chanson que j'ai trouvée sur YouTube s'appelle Les Migrants. Et elle est interprétée par un, tout ce que je sais, c'est un collectif d'artistes dirigé par Didier Awadi. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai trouvé la chanson sympa. Donc voilà. Et puis, bah là, il y avait Colombe. Donc Colombe, pour qui c'est la grande première au micro, qui va vous parler, je crois, de la Gay Pride, si j'ai bien tout compris.
Oui, c'est exactement ça, Didier. Du coup, après cette courte pause musicale très entraînante, on va continuer sur la lancée, puisqu'on va parler d'un sujet qui est tout aussi entraînant, on va dire, c'est de la Gay Pride, et particulièrement de l'édition de 2018. Et pour essayer d'être un tout petit peu ordonné, donc puisque c'est ma première, on va d'abord essayer de définir ce que c'est la Gay Pride ou la Marche des Fiertés, en quoi ça consiste, et faire un petit panorama de ce qui s'est passé dans la région. Et on va tout simplement terminer en fait en faisant un lien entre les droits des personnes homosexuelles et la position d'Amnesty International. Donc, en ce qui concerne donc la Gay Pride, littéralement, c'est la marche des fiertés hein, en français. Et comme son nom l'indique, c'est une marche, c'est-à-dire qu'on déambule et on a un but bien précis, c'est de lutter contre l'homophobie et de manière vraiment large contre toutes les formes de discrimination à l'encontre des homosexuels et des personnes qui sont dans la communauté LGBT, c'est-à-dire les personnes qui sont lesbiennes, gays, bisexuels et aussi transsexuels, intersexes, de manière vraiment large. Et cette marche a un aspect fortement revendicatif. Hein. C'est pour ça que pas mal d'associations y participent, même dans la région. Il y en a eu Amnesty International à défiler aussi aux côtés de d'autres associations. Et ça se passe généralement au mois de juin. Ça se tient une fois par an. Et c'est un mouvement de célébration. Il faudrait aussi rappeler que, comme son nom l'indique, à forte consonance américaine, anglaise, hein, c'est parti des États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est une pratique qui se fait quand même dans le monde, dans la France. Et Didier m'a même transmis du coup que, même en Turquie, il y a eu aussi une célébration, une manifestation en ce sens le 11 mai dernier. Du coup, une fois qu'on a précisé les bases, je ne vais pas traîner, je vais juste dire qu'il y a eu des événements liés dans la région, en Normandie, par exemple à Caen le 2 juin, où environ 1600 personnes se sont réunies pour faire la fête et pour s'amuser, tout en revendiquant des droits. Le 16 juin, bientôt, donc ceux qui sont dans la région ou qui sont dans la région de Rouen pourront s'y rendre. Il y a aussi la Gay Pride qui va se tenir. Et comme Didier l'a dit précédemment, je suis originaire de Toulouse, donc je n'ai pas manqué, même si je suis loin, maintenant je suis dans le Nord. Le 9 juin dernier, on a aussi fait la fête à Toulouse, donc autour de ce thème-ci. Le dernier point que je voulais aborder, en fait, c'est beaucoup plus sérieux cette fois. C'est le lien avec Amnesty International. On va se recentrer un tout petit peu. Il faut savoir que les droits LGBT sont également des droits humains. Et il y a vraiment une dimension très, très, très juridique, hein, même si on parle de faits, il y a des dénonciations qui sont très précises et on parle de faits qui ont été constatés dans le monde, par exemple, où il y a eu des viols qu'on appelle viols curatifs,
pour les personnes qui ont une orientation particulière, qui sont par exemple lesbiennes, et parfois même sur les conseils des parents pour pouvoir justement, entre guillemets, parce qu'ils considèrent que ça guérit, ce qui est totalement aberrant. Il y a aussi des privations d'emploi, il y a beaucoup de manifestations en fait, de droits qui sont violés juste en raison de l'orientation sexuelle. Et par rapport à tout ce qu'il y a à faire, justement, Amnesty International a des demandes particulières, mais on ne va pas trop s'étaler, on va juste illustrer. Par exemple, il y a eu une demande par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité, et ça partout dans le monde, hein, puisque... On a tendance à croire que c'est un phénomène occidental, mais c'est un phénomène mondial. Et par rapport aussi à la peine de mort, qu'il y ait une abolition de la peine de mort dès lors que c'est prononcé sur la base de l'orientation sexuelle. Et aussi, Amnesty International demande la libération de tous les détenus sur ce fondement. Donc, pour moi, ça me tenait particulièrement à cœur d'en parler. Personnellement, et aussi parce que c'est au cœur de l'actualité, et pour moi, tout ce qui est orientation sexuelle, identité de genre, ce sont des droits humains à part entière. Donc,
voilà. Bien sûr, et de toute façon, il y a un petit rapprochement à faire avec, enfin, c'est pas le même sujet, mais un petit rapprochement avec ce que disait Clara par rapport au droit des femmes de disposer de leur corps. Bon, il est bien évident que son orientation sexuelle, c'est le droit aussi de disposer de sa vie et de disposer de sa sexualité, enfin, etc. Et qu'il n'y a pas d'a priori à avoir sur quoi que ce soit, ça c'est clair, c'est aussi un droit fondamental. Et tu parlais tout à l'heure, dans ton intervention, la colombe de viol curatif, c'est ça, ouais. Alors ça m'a fait penser à ce que disait Clara tout à l'heure, l'obligation dans certains pays pour des femmes de mener à terme une grossesse qui est issue d'un viol. Je veux dire, c'est franchement des choses que j'y arriverai jamais à comprendre. Quoi. Franchement, pour moi, c'est surréaliste. Quoi, je veux dire, pouvoir considérer d'avoir des opinions ou de ce type-là, et de considérer ça comme quelque chose d'envisageable et normal, de faire des viols curatifs ou d'obliger.
C'est
d'obliger
absolument pas logique. Ouais. Même ça serait, si on y pense, c'est contre-productif. Comment on peut changer l'orientation sexuelle d'une personne de cette manière-là, enfin,
ben oui,
c'est
oui.
Choquant.
Ben, de toute façon, oui. D'abord, c'est évident que ça ne marche pas. Je veux dire que l'homosexualité a toujours existé, existera toujours. Quoi. Je veux dire, voilà. Quoi. C'est un non-problème en soi. Quoi. Je veux dire, c'est le problème n'apparaît que parce qu'une partie de l'humanité ne l'accepte pas. Mais sinon, le problème en soi n'existe pas. Chacun mène sa vie comme il veut. Je veux dire, c'est bon, voilà. Et donc. Voilà, enfin bon, ça c'est des grandes considérations qu'on a toujours, mais c'est vrai que là aussi, bien évidemment, ce sont des défenses de droits fondamentaux. Et en parlant de marge des fiertés, je crus comprendre que Clara, ça t'intéressait aussi. Tu n'avais pas dit que tu voulais y réfléchir pour l'année prochaine avec ton antenne jeune.
Et ben voilà, c'est exactement ça. Je me suis dit que ça pourrait être bien. J'ai eu plusieurs demandes de la part de lycéens qui souhaitaient mettre ça en place. Donc voilà, je vous appelle si un jour ça vous dit pas. Je serai là pour répondre à votre demande.
On sera là pour en reparler à la radio et puis dans d'autres occasions, mais je pense qu'on y réfléchira entre l'antenne jeune et le groupe pour l'année prochaine.
Bien sûr, j'espère bien.
Parce qu'on vous rappelle que Clara est la responsable de l'antenne jeune du lycée Aristide Briand.
Mais je crois que Didier, nous, on va pouvoir quitter l'émission parce que je trouve qu'elle se débrouille
ouais,
bien.
Ouais, je pense que
ouais, je pense qu'elle se débrouille bien.
Je pense qu'on va s'offrir des vacances radiophoniques pendant quelques temps.
Parce que là, on a trouvé de bonnes recrues, là. Là, c'est bien.
Bon, moi, je vais vous parler d'un sujet une transition un peu difficile. On va passer d'un côté festif avec la GIAPRA et d'un sujet dramatique. Amnesty a publié un rapport, donc j'en ai parlé dans le chapeau au début de l'émission, a publié un rapport ces deux derniers jours, là, depuis le début du mois de juin, sur les massacres des populations civiles lors des attaques de la coalition principalement américaine pour déloger l'État islamique de Raqqa. Raqqa, c'était une ville de Syrie qui avait été autoproclamée capitale de l'État islamique. Et donc l'armée américaine et la coalition, dont l'armée française et britannique qui ont participé, ont libéré, entre guillemets, la ville. Alors bien évidemment que le fait de déloger l'État islamique, personne ne s'y oppose, sachant effectivement les exactions de ce groupe terroriste qui sont là aussi tout à fait inimaginables. Mais la façon dont cette libération s'est passée n'est pas du tout respectueuse des droits fondamentaux et s'apparente malheureusement bien souvent à des crimes de guerre. Donc voilà ce que dit Amnesty, et puis je vais vous résumer, puis je vais vous lire un petit témoignage après, parce que bon, les témoignages, c'est toujours plus parlant que les grandes déclarations. Il y a un an, une coalition menée par les États-Unis lançait une offensive pour chasser le groupe armé État islamique de la ville de Raqqa. Des attaques aux conséquences catastrophiques pour les civils. L'opération menée par la coalition sous la direction des États-Unis du 6 juin au 12 octobre 2017 pour chasser l'État islamique de sa capitale autoproclamée a fait des milliers de morts et de blessés parmi la population civile et a détruit la majeure partie de la ville. Des habitations, des bâtiments et des infrastructures ont été réduits à l'état de ruines ou trop endommagés pour pouvoir être réparés. Les forces américaines, britanniques et françaises de la coalition ont conduit des dizaines de milliers de frappes aériennes et les forces américaines ont reconnu avoir procédé à 30 000 tirs d'artillerie pendant l'offensive sur Raqqa. Plus de 90% des frappes aériennes ont été menées par les forces américaines. À la veille de cette campagne militaire, le secrétaire américain de la Défense, James Mattis, promettait une guerre d'anéantissement, c'est ses mots, de l'État islamique. Les affirmations de la coalition selon lesquelles sa campagne de bombardement aérien de précision lui a permis de libérer la ville de l'État islamique en faisant très peu de victimes ne résistent pas à un examen approfondi. En septembre 2017, au plus fort du conflit, le général de corps d'armée Stephen Thompson, commandant américain de la coalition, a écrit qu'il n'y avait jamais eu une campagne aérienne plus précise dans toute l'histoire des conflits armés. Ah, il nous avait ressorti le coup de la guerre chirurgicale. Ce qui est en forte contradiction avec les témoignages des habitants de Raqqa. Les habitants se sont trouvés piégés tandis que les combats faisaient rage dans les rues de Raqqa entre les militants de l'État islamique et les combattants des forces démocratiques syriennes, FDS, sous direction kurde, soutenus par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie incessants de la coalition. L'État islamique a placé des mines sur les voies de sortie de la ville et a tiré sur les personnes qui essayaient de s'enfuir. Plusieurs centaines de civils ont été tués chez eux ou dans des lieux où ils s'abritaient, où on trouvait la mort alors qu'ils tentaient de fuir. Un haut responsable militaire américain a même déclaré que jamais autant d'obus n'avaient été tirés sur un même lieu depuis la guerre du Vietnam. Les tirs d'obus, alors pour ceux qui nous écoutent, effectivement la guerre du Vietnam c'est pas récent, moi je m'en souviens, la fin des années 60, et ça avait été particulièrement un massacre en termes de population civile. Les tirs d'obus n'étant précis qu'à 100 mètres près, il n'est pas étonnant que les victimes civiles aient été si nombreuses. Cette tragédie est en outre aggravée par l'absence d'enquête. Plusieurs mois après les faits, les victimes méritent que justice leur soit rendue. Voilà. Bon, je vais vous résumer. Donc Amnesty, évidemment, a publié un rapport. Ce rapport, vous pouvez le trouver sur le site d'Amnesty. Hein, de toute façon, vous allez sur la page d'accueil et vous avez un lien sur ce rapport. Vous l'avez en anglais en totalité et vous avez un résumé en français. Moi, j'ai récupéré le résumé. Bien sûr, Amnesty demande, entre autres, l'ouverture d'enquête pour des crimes de guerre et demande principalement que soient ouvertes des modalités de réparation des familles civiles qui ont été massacrées pendant cette libération, entre guillemets, de Raqqa et cet anéantissement de la ville. Vous avez aussi sur le site quelques photos de la ville, à quoi elle ressemble maintenant. Et effectivement, ça fait froid dans le dos. Donc voilà, et pour plutôt vous rendre les choses un peu plus concrètes au niveau de ce rapport, je préfère vous lire un ou deux témoignages parce qu'effectivement c'est plus parlant que des textes un peu abstraits. Mais encore une fois, c'est important de se mobiliser. Vous avez une pétition à signer aussi sur le site d'Amnesty, hein, donc vous allez voir sur la page des pétitions, et vous avez une pétition à signer pour l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et pour l'ouverture de réparation par rapport à la population civile qui a subi les conséquences de ces exactions. Donc, un des exemples qui est cité dans le rapport, la famille Aswad est une famille de commerçants qui avaient travaillé toute leur vie pour se construire une maison à Raqqa. Certains de ses membres sont restés à Raqqa lorsque l'opération militaire a démarré afin de protéger leurs biens, se réfugiant dans la cave de leur maison pour échapper au bombardement. Le soir du 28 juin 2017, une frappe aérienne de la coalition a détruit le bâtiment, tuant 8 personnes, en majorité des enfants. Mohamed Othman Aswad, le seul rescapé, a raconté à Amnesty International. « J'étais assis sur un bidonville près de la porte de la cave, bavardant avec Abu Mahmoud, qui était accroupi à côté de moi. Sa femme et ses 5 enfants étaient dans la cave avec mon frère Jamal. La bombe nous est tombée dessus tout d'un coup. Le jeune frère de Mohamed Amar, qui avait fui la ville, a perdu la vie en marchant sur une mine posée par l'État islamique quand il est revenu à Raqqa quelques jours plus tard pour essayer de récupérer les corps. » Une autre famille, qui s'appelle la famille Yachiche, a perdu 18 de ses enfants. 9 ont été tués par une frappe aérienne de la coalition. 7 sont morts en tentant de fuir sur une route minée par l'État islamique. Et 2 autres ont été victimes de tirs de mortier, apparemment lancés par les FDS, donc la coalition. Ceux qui sont restés sont morts et ceux qui ont essayé de s'enfuir sont morts. Nous n'avions pas les moyens de payer des passeurs. nous étions piégés, a raconté Murida à Amnesty International. Avec plusieurs de ses enfants, elle a survécu aux frappes aériennes et aux mines. Elle a expliqué à Amnesty qu'ils avaient finalement réussi à s'échapper en marchant dans le sang de ceux qui avaient explosé en essayant de fuir avant nous. Les passeurs, souvent des membres de l'État islamique, savaient comment éviter les terreurs embusquées et les champs de mines du groupe armé. Ils faisaient payer plusieurs centaines de dollars par personne pour faire sortir les civils de Raqqa. Le prix payé aux passeurs a augmenté au fur et à mesure de la progression de l'opération militaire et l'État islamique a intensifié ses efforts pour empêcher les civils de quitter la ville. Dans l'impossibilité de payer le montant demandé par les passeurs, Murida et sa famille ont essayé de partir seuls malgré les dangers. Elle a raconté à Amnesty International « Nous avions déjà tenté de nous enfuir de la ville, mais sans succès. Environ 5 jours après l'Aïd, nous avons essayé de nous échapper en traversant la rivière. Mais Daesh, donc l'État islamique, nous a rattrapés. Ils ont frappé les hommes très violemment et m'ont placé en détention avec d'autres femmes dans une maison pendant une journée avant de nous laisser partir. » Et là, je ne sais pas si vous avez fait une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez entendu dans ce que j'ai raconté, mais on parlait de passeurs pour faire sortir les civils de Raqqa et qui étaient des membres de l'armée de l'État islamique et qui se faisaient payer. Moi, ça me rappelle les discours qui sont tenus par les officiels par rapport aux passeurs et à l'appel d'air et aux migrants, enfin, etc., etc. Sauf que quand Amnesty fait des enquêtes, on s'aperçoit que la réalité n'a rien à voir. C'était en fait l'État islamique qui se faisait payer pour libérer des gens, enfin, pour laisser des gens passer, ce qui est quand même le comble du sordide. Et bon, plus loin, effectivement, il y a un autre témoignage qui dit, c'est un autre témoin, Mohamed, qui dit « Nous marchions tout doucement, ils essayaient de s'enfuir, en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas que les combattants de Daesh nous entendent s'ils étaient postés dans les environs. Lorsque nous sommes arrivés tout près de l'axe principal, notre chemin était barré par un petit monticule de terre sur lequel nous avons été obligés de marcher afin de continuer notre route. » Et lorsque nous l'avons fait, il y a eu l'explosion. Bon, il a perdu ses frères, si j'ai bonne mémoire. 7 d'entre eux ont été tués et les autres blessés, principalement des femmes et des enfants. Les survivants n'ont pas eu d'autre choix que de rentrer chez eux. Quelques jours plus tard, une frappe aérienne de la coalition a détruit leur maison, tuant 9 membres de la famille, essentiellement des femmes et des enfants. Donc encore une fois, ils avaient le choix entre Daesh, les passeurs de Daesh, les mines et les bombes. Voilà, et juste pour terminer dans ces témoignages, hein, parce que je vous parlais effectivement tout à l'heure des passeurs et de l'État islamique, alors comble du comble, parce qu'après on va se demander aussi, mais pourquoi ces gens-là, enfin ce que disent certains ici, pourquoi ces gens-là ils viennent chez nous ? Ben, c'est très facile à comprendre, parce que là...
Ils fuient la guerre,
voilà, tout à fait. Et donc, il y a même plus sordide que ça, parce qu'après on s'aperçoit effectivement, c'est toujours dans le rapport d'Amnesty. Donc il cite différentes exactions qui se sont passées sur la fin des actions militaires. Et donc le rapport dit, plus tard cette journée-là, les forces démocratiques syriennes et la coalition ont conclu un cessez-le-feu avec l'État islamique qui prévoyait que les combattants de l'État islamique pouvaient sortir de la ville sans être inquiétés. Dans le cadre de l'accord, les combattants de l'État islamique et leurs familles ont été convoyés par bus hors de Raqqa, dans des zones à l'est de la ville, toujours sous contrôle de l'État islamique. Jusqu'à présent, la coalition n'a pas expliqué pourquoi elle avait continué à lancer les frappes aériennes qui ont tué tant de civils, alors qu'un accord accordant l'impunité aux combattants de l'État islamique et assurant leur évacuation était en train d'être examiné et négocié. De nombreux survivants des frappes aériennes interrogés par Amnesty se sont demandé pourquoi les forces de la coalition avaient eu besoin de détruire une ville entière et de tuer autant de civils avec des bombardements censés cibler les combattants de l'État islamique pour ensuite leur permettre de quitter la ville sains et saufs. Voilà, je m'arrêterai là. C'est suffisamment éloquent, donc effectivement, voilà. Oui ?
Moi, je pense que c'est peut-être le moment où je fasse une petite bonne nouvelle.
Oui, ce serait bien.
Soudan. 56 membres de partis d'opposition et défenseurs des droits humains arrêtés en janvier et février 2018 ont été libérés sans inculpation. Ils avaient été arrêtés puis détenus arbitrairement lors des manifestations dénonçant la hausse du coût de la nourriture et des médicaments depuis début janvier. C'est-à-dire qu'au Soudan, on manifeste et on est emprisonné. Donc, ils ont été libérés. Je pense que c'est peut-être le moment de passer une petite pause, non ?
Oui. Oui, oui, on va faire une petite pause musicale.
Ta dust settles on an old delivery van. Hot metal rests heavy on the swollen land. Sirens come screaming into life. They're crying like a young teething child. I don't know why my mother is quiet. I don't know where my father is gone. All I know is I feel alone and I'm scared to the bone. Won't you take me in? Won't you lend a hand? 'Cause I'm lost and I'm low. Won't you give a home? There's no blanket to pull up over my head. Smoke shatters out into the atmosphere and it chokes out all the sunlight. I'm left stranded in eternal nighttime. And I don't know how it's come to this. I don't know when all be over. All I know is I feel alone and I'm scared to the bone. Won't you take me in? Won't you lend a hand? 'Cause I'm lost and I'm low. Won't you give a home? Won't you take me in? Won't you lend a hand? 'Cause I'm lost and I'm low. Won't you give a home? 'Cause I'm lost.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc pour la dernière partie de l'émission, c'est Amnesty International Évreux. Et donc, on vient d'entendre un chanteur que je ne connaissais pas du tout avant ce midi, qui s'appelle Ciaran McMicken. Il m'excusera si je prononce mal son nom. C'est un chanteur néo-zélandais qui a fait une chanson pour les réfugiés qui s'appelle Give Home, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et la chanson a été donnée en soutien à Amnesty International en Nouvelle-Zélande, puisqu'il est néo-zélandais.
Et c'est une belle chanson.
Et c'est une belle chanson, effectivement. Voilà. Donc c'est Ronan, maintenant, qui voulait vous parler d'Amnesty et du Nigeria,
ouais.
Parce que ça ne se passe pas très bien. On vous en avait parlé à la dernière émission, mais c'est autre chose.
Justement, c'est un petit coup de gueule que je vais faire, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à la dernière émission, Didier il avait parlé d'un rapport qu'Amnesty avait fait, justement, au niveau de l'armée nigériane. Et a priori, ce rapport est sorti, et ça n'a pas trop plu à l'armée. Donc,
c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Marrant. Les rapports d'Amnesty ne passent pas aux officiels, j'ai remarqué des fois.
Donc, au Nigeria... Amnesty International menacée. L'armée nigériane recourt de plus en plus à des menaces, des actes d'intimidation et des déclarations diffamatoires afin de discréditer notre travail sur l'évaluation des droits humains qu'elle commet. Le 24 mai 2018, nous avions publié une enquête qui porte sur la prévalence de violences sexuelles dont sont victimes les femmes et jeunes filles affamées et retenues captives dans des camps satellites se trouvant sous le contrôle de soldats et de miliciens nigériens. L'armée nigériane a réagi en lançant des campagnes de dénigrement et en menaçant de prendre des mesures contre Amnesty International. Vous avez bien compris, prendre des mesures contre Amnesty International. Par exemple, le 20 mars 2017, des manifestants payés portant un cercueil ont envahi le bureau d'Amnesty International à Abuja en scandant des slogans hostiles à l'organisation comme « Amnesty International soutient Boko Haram » et « Vous êtes des démons, quittez le Nigeria maintenant ». Ces manifestants, dont certains étaient des personnes déplacées à l'intérieur du pays, venues de camps situés aux abords d'Abuja, ont déclaré qu'ils avaient été payés, et 1400 naira. Alors, je ne sais pas combien ça
se c'est la monnaie nigériane ou je sais pas.
Je pense que ça doit être plus pépite, mais bon. On était payés 1400 naira par jour par des représentants des sponsors de la manifestation qu'ils avaient rencontrés à Unity Fonden. Ça, c'est à Abuja. Le 23 mai 2018, la veille du lancement de... il va me dire mieux que moi, ça dit The Zebra...
They betrayed us. Enfin, ils nous ont trahis.
Voilà, et c'est le nom du rapport,
c'est le nom du rapport d'Amnesty.
Des campagnes de dénigrement lancées sur les médias et des actions de protestation organisées à l'avance ont eu lieu dans le but manifeste de nous intimider. Un porte-parole de l'armée nigériane a également répété l'affirmation selon nous avions tous un intérêt à ce que le combat contre Boko Haram se prolonge. Nous montrons au contraire systématiquement à quel point les conflits à travers le Nigeria réduisent l'accès des gens restreints à l'éducation, à la santé et aux services sociaux dans le pays. Et comment l'impunité pour les violations commises par l'ensemble des camps perpétue un cycle de violences meurtrières. Ces manœuvres de diversion sont une tentative sans vergogne d'éviter d'enquêter sur le signalement de violations des droits humains. Les déclarations de l'armée nigériane montrent clairement que personne dans ses rangs n'a lu nos rapports. Par exemple, alors que nos récents rapports portaient sur des camps satellites distants dans les zones comme Bamo et Banki, l'armée a emmené des journalistes dans notre camp, à Maiduguri, dans le but de prouver que nous avions tort, bien sûr. Conformément aux normes en la matière, nos rapports sur les violations des droits humains en Nigeria demandent que des enquêtes soient menées sur les allégations qu'ils contiennent, mais l'armée nigérienne répond systématiquement à ces requêtes par des campagnes de dénigrement, des actes d'intimidation et des menaces. Au lieu de s'employer à régler les problèmes soulevés dans le rapport, notamment en menant des enquêtes sur les innombrables allégations de viol et d'autres crimes de guerre, l'armée nigérienne recourt à sa tactique habituelle constituant à nier et à menacer. Nous faisons toujours part des conclusions de ces recherches à l'armée nigériane avant de les rendre publiques. Nous posons des questions détaillées afin que l'armée puisse donner sa version des faits, mais soit elle fait preuve d'un désintérêt total face à nos tentatives de nouer le dialogue, soit elle nous renvoie vers d'autres branches du gouvernement, essayant ainsi clairement d'esquiver nos questions. Malgré ces campagnes d'intimidation, le mercredi 6 juin, le Sénat se décide enfin à se pencher sur les allégations figurant dans le rapport d'Amnesty, la qualifiant de signal d'espoir pour les victimes en quête de justice. Notre travail au Nigeria ne se limite pas à rendre compte des violations perpétuées, par l'armée, loin s'en faut. L'organisation a également publié des rapports sur les nombreuses actions commises par le groupe armé Boko Haram et sur les atteintes aux droits humains attribuées à la police nigérienne. C'est pour ça qu'après, quand on dit qu'on est...
Mais c'est ce que j'allais dire, oui. On est vendu à Boko Haram, c'est ça?
Oui, et pourtant, on a fait le même
rapport. Et pourtant, on fait des rapports sur eux. Ouais.
Non, enfin. Alors, des chercheurs d'Amnesty International ont aussi recueilli des informations sur de violentes expulsions forcées menées par le gouvernement de l'État de Lagos et travaillé avec des populations se trouvant sous la menace d'expulsion forcée dans l'État de Kaduna et dans les territoires de la capitale fédérale, soutenant dans les deux cas le droit à un logement convenable. Notre organisation a en outre attiré l'attention de la contamination permanente des eaux dans l'État du Niger par des compagnies pétrolières. Ça, je me rappelle qu'on en a parlé dans
beaucoup d'émissions. De
et demande depuis des décennies que les responsables rendent des comptes pour la destruction environnementale qui en résulte. L'armée a beau se démener, nous ne nous tairons pas face aux efforts qu'elle déploie afin de se dérober à ses responsabilités ou de calomnier notre organisation. Nous continuerons à élever notre voix dès que nous verrons des injustices, des abus sexuels, des discriminations contre les femmes ou d'autres violations des droits humains au Nigeria.
Bah oui, il en faut plus pour nous faire taire, c'est clair.
Tout à fait.
Même l'armée nigérienne n'y arrivera pas.
Bah, c'était mon coup de gueule.
T'as raison. Clara, je crois, elle voulait proposer aux auditeurs et aux auditrices de nous soutenir en faisant une petite action. C'est ça?
C'est exactement ça. Moi, je vais vous faire un appel à action. Je vais m'occuper du cas de June. June est une avocate thaïlandaise que défend Amnesty International Évreux depuis plus d'un an maintenant. Elle défend donc les droits humains et c'est une avocate de premier plan en Thaïlande. Elle défend les personnes qui font l'objet d'enquêtes, mais aussi de poursuites, pour avoir pacifiquement exercé des droits humains garantis par le droit international. Petit paradoxe, quand même. Elle encourt 15 ans de prison pour avoir représenté légalement, et j'appuierai bien sur le légalement, 14 militants en faveur de la démocratie, ainsi que pour avoir dissimulé des preuves et refusé d'obéir aux ordres de policiers. Et pour finir, pour avoir fait une fausse déclaration suite à une plainte qu'elle avait déposée pour faute contre les policiers.
Ben ça, c'est les accusations qu'on lui a faites sur elle, hein, ce qui ne veut pas dire que ce qu'on lui reproche est fondé.
Exactement. Donc maintenant, je vais vous demander d'agir.
C'est... Donc, qu'est-ce qu'on fait pour agir?
Comment
fait-on?
Comment font les auditeurs pour agir?
Et ben voilà, déjà vous pouvez aller sur le site d'Amnesty International, vous retrouverez une lettre type. Je vais vous lire le contenu. Et puis bah, vous n'avez plus qu'à l'envoyer, à la rédiger, et puis bah, ça serait la bonne action du jour. Alors dans cette lettre, il est écrit « Monsieur ». Donc je vais pas vous lire son nom complet parce que je ne saurais pas le prononcer.
Et c'est qui ce monsieur? Ça va être marqué, non, sur le...
Chef de la police royale de Thaïlande.
Ouais, voilà, c'est un officiel.
Monsieur chef de la police royale de Thaïlande.
Monsieur chef de la police, oui.
June est une... pas de moquerie. June est une avocate œuvrant pour la protection des droits humains. Elle est poursuivie dans le cadre des 3 affaires et en cours au total jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour avoir représenté 14 militants en faveur de la démocratie, arrêtés le 26 juin 2015. Une enquête pénale a été ouverte à son encontre en février 2016 parce qu'elle aurait enfreint les articles 142 et 368 du code pénal en dissimulant des preuves et en refusant d'obéir aux policiers qui souhaitaient fouiller sa voiture. Elle a aussi été informée qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour fausse déclaration d'activité criminelle, ayant déposé plainte contre les policiers pour faute. 2 mois plus tard, peu après son intervention devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en septembre 2016, elle a été convoquée par la police dans le cadre de l'enquête en cours concernant les 14 manifestants étudiants. Selon les enquêteurs, sa présence sur les lieux des manifestations aux côtés des militants étudiants prouvait son implication dans leur procès devant un tribunal militaire. Prouvait son implication dans leurs activités illégales présumées. Si elle est officiellement inculpée, June risque de faire l'objet d'un procès devant un tribunal militaire comme les autres militants. En tant que membre sympathisant d'Amnesty International, je vous engage à garantir l'abandon immédiat de toutes les enquêtes pénales en cours à l'encontre de Siri Kancharo en Siri, donc alias June.
Tu t'es lancé à dire son nom complet là.
Je suis désolée.
Pas du tout. T'es courageuse hein, parce que son nom est un nom thaïlandais.
Exactement. Donc alias June, poursuivie pour avoir fourni une assistance juridique. Dans l'attente, je vous prie d'agréer monsieur mes meilleures salutations.
Voilà, donc si vous êtes intéressé pour nous soutenir et pour soutenir June surtout, vous nous envoyez vos coordonnées par mail à amnesty.evreux@gmail.com et on vous renvoie la lettre toute faite. Vous n'avez plus qu'à la signer et à la poster. Vous avez l'adresse, bien sûr. Vous n'avez plus qu'à la signer et à la poster. Pour information, cette action-là, on était présent au festival Ça sonne à la porte samedi à Grosseuvre. On a passé une bonne journée avec nos amis de Principe Actif, vu qu'on est à Principe Actif aussi tout de suite. Et donc, on a passé une bonne journée. Et on avait cette action-là, effectivement, qui a été signée par un certain nombre de festivaliers. Donc, qu'on renvoie, nous, de notre côté, effectivement, aux autorités thaïlandaises. Et ça, ce sont des actions qu'on fait, nous, à longueur d'année, d'envoyer ce genre de courrier, ce genre de soutien. Parce qu'il n'y a pas que les pétitions. Les pétitions, c'est important, mais il y a aussi les courriers directs auprès des autorités. Et qui, quand ils en reçoivent beaucoup, 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 se sentent obligés, au bout d'un moment, de faire quelque chose. C'est ça le but. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous contacter pour soutenir June. Nous, on va pas tarder à rendre l'antenne. Il y a notre ami, je me retourne.
Nos amis sont deux.
Il y a 2 laboratoires ce soir. Il y a nos amis du laboratoire qui viennent d'arriver. On ne va pas tarder à rendre l'antenne. On vous rappelle quand même ce qu'on a dit en début de l'émission, nos actualités locales, la très très prochaine. Mardi prochain, mardi 19, projection débat, voilà. Projection débat au cinéma Pathé à Évreux.
À 19h45.
À 19h45 autour du film Human Flow sur les réfugiés. Un film visiblement que moi j'ai pas vu, que j'ai découvert en même temps, mais un film apparemment très très prenant sur la problématique des réfugiés et qui donne envie d'agir, avec un débat après. Et le lendemain, toujours sur la thématique des réfugiés, puisque ce sera le jour de la campagne, de la journée mondiale des réfugiés, émission de radio spéciale avec Principe Actif de 18h à 19h45 en direct de la MJC. Donc vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous écouter derrière votre transistor, c'est comme vous voulez. On aura une radio vivante et en public. Voilà. Donc, il est 19h59, donc très bien. On va vous dire rendez-vous à la prochaine émission bimensuelle d'Amnesty, c'est-à-dire le mardi 26 juin.
Ouais,
Ronan, il était au mois de mai. Non, le mois de mai est fini.
Non, mais j'avais 26 qui était bon, quoi.
Le mois de mai est fini. Bientôt Noël, hein, Ronan, bientôt Noël. Il faut penser à tes cadeaux. Hein. Donc, voilà. Et donc, on se retrouve le 26 juin. Et puis, avant, on se retrouvera jeudi prochain pour une émission spéciale. Mercredi prochain.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains.